Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique.
Il est 7h45, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique de Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et député de l'Essonne.
Oui, bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
Bonjour Patrick Roger.
Semaine importante, un café, restaurant, vacances d'été, secteur automobile, traitement des personnels soignants, sans oublier le virus lui-même. Est-ce le moment d'accélérer la remise en route du pays, notamment tout le secteur de la restauration?
Oui, si on a les derniers résultats du ministère de la Santé et que l'épidémie décroît, oui, il faut relancer parce que on peut relancer tout en étant prudent. Alors après, il y a un problème de rentabilité pour les restaurants et je sais que les restaurateurs sont très inquiets parce que vous savez qu'il y a des espèces de consignes très, très strictes. Il faut qu'ils puissent vivre de cela. Mais je crois que ce que je répète d'ailleurs depuis longtemps, depuis fin janvier, donc j'étais venu chez vous, je me souviens, en février.
Ouais, c'est vrai.
Et ce que j'avais dit, parce que j'avais regardé ce qui se passait en Asie, c'est qu'à Hong Kong, par exemple, ils ont fermé les écoles, mais sinon la vie a continué. Mais ils avaient des masques, ils testaient, et ils isolaient et ils soignaient. Nous, on n'avait pas de masque, pas de test, et on n'isole pas, on ne soigne pas. Eh bien, on a eu le confinement qui a totalement brisé le pays. Maintenant, si on a les masques, les tests, et c'est là où il y a encore beaucoup à dire, et qu'on applique des traitements, on devrait pouvoir reprendre. Et il faut reprendre.
Est-ce que vous avez l'impression que justement le gouvernement aborde bien quand même cette période de confinement, hein, sans...
Écoutez, vous savez, j'ai été
sans
très...
Sans querelle partisane.
Non mais
hein,
il n'y a pas de querelle cette affaire. Simplement, le gouvernement a été absolument lamentable pendant toute la période du confinement. Aujourd'hui, il y a eu des mesures de prise, mais il y a toujours ce même problème qu'il ne voit pas ou qu'il fait semblant de ne pas voir, qui est le problème de l'intendance. Depuis le départ, je demande qu'on produise en France. Quand vous dépendez de l'étranger pour les masques, par exemple, les dentistes, cette semaine en Ile-de-France, n'ont pas eu de masque FFP2. Quand vous dépendez à ce point de l'étranger, eh bien, vous êtes pieds et mains liés à la Chine. Si la Chine ferme le robinet des masques FFP2, bah, il n'y a plus de masque FFP2 pour les soignants. Donc, l'enjeu, et c'est là où je trouve dommage que le gouvernement n'ait pas accéléré 1000 paquets pour qu'on produise en France les produits indispensables qui sont les masques. Parce que vous savez, avec les masques, à Hong Kong, il y a 800 fois moins de morts par habitant. 800 fois moins, je ne sais pas si vous réalisez. Les gens vivent et ils ont des masques. Voilà. Et ils testent. Et vous êtes testé en une heure. En une heure. Vous allez dans une pharmacie, vous avez un kit, on vous teste en une heure. En France, il faut 2-3 jours.
Ouais. Ah bah, ça peut aller plus rapidement. Non, mais ouais, ça peut aller plus rapidement.
J'ai
ça
quelqu'un
dépend
de ma famille qui a voulu se faire tester vendredi.
On lui a dit mardi. Dans un labo, Nicolas Dupont-Aignan, on peut aller plus vite.
Non, dans un labo à Paris.
Ah oui. Bon,
donc je lui donnerai une bonne adresse. On lui a dit que c'était le week-end. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous a enfermés par manque de moyens dans un dilemme horrible. Soit on s'enferme, c'est le Moyen-Âge, soit on est malade. Le déconfinement commence à se faire. Pourquoi ? Parce qu'on a davantage de masques et davantage de tests. Et il faut qu'on ait les deux et que surtout après, ce soit des habitudes. C'est-à-dire qu'il faut que les Français à la fois comprennent qu'ils peuvent se déconfiner, vivent normalement, mais qu'en revanche, il faut essayer de porter le masque. Et c'est là où j'ai vu hier à Paris... c'est pas terrible, quoi.
Oui. Allons
par exemple, les parcs, on pourrait rouvrir les parcs, complètement débiles.
Ouais. On a rouvert le parc du Puy du Fou.
Oui, non mais ça c'est bien. L'exemple.
Alors ça c'est bien, mais les autres parcs n'ont pas ouvert. Donc deux poids, deux mesures, non ? Qu'est-ce qui s'est passé là pour
J'en sais rien. En tout cas, il faudrait rouvrir tous les parcs, mais avec des conditions de précaution. Je prends un exemple des parcs et jardins à Paris. C'est complètement absurde. Les gens s'entassent sur les trottoirs, les parcs sont vides, alors qu'il suffirait d'ouvrir les parcs en disant « vous mettez un masque, point ». Est-ce qu'on peut essayer d'aborder ce dossier ? Je veux dire, comme le font certains pays qui ont réussi. Et regardez ce qui a marché à l'étranger. C'est tout ce que je demande.
Oui, c'est ça.
Alors, sans polémique.
Parlons aussi des vacances cet été, parce que, évidemment, c'est particulièrement important pour l'économie française également. C'est fondamental. Idéalement, il faudrait rester en France, a dit la ministre Elisabeth Borne. C'est une bonne nouvelle pour vous ?
Oui, le problème, c'est qu'il n'y aura pas les touristes étrangers. Donc, il faut que les Français remplacent les étrangers, si je puis dire, pour que le tourisme marche. Moi, j'ai une proposition que je fais à Madame Borne. C'est Madame Delga qui en a parlé la première. Et je trouve que c'est une très bonne idée.
Oui.
C'est que les autoroutes soient gratuites pour les Français en juillet et août. Et c'est possible. Et je vais vous dire pourquoi c'est possible. Parce que j'ai regardé, avant de faire cette proposition, parce que je suis raisonnable. Et j'ai regardé, et les profits accumulés par les sociétés d'autoroutes sont tellement exorbitants depuis 10 ans 27 milliards d'euros de dividendes versés entre 2007 et 2017, un taux de profit de 20 à 24%, 3 milliards de bénéfices encore en 2017, dernier chiffre que j'avais.
Bah, certains vous diront qu'elles sont bien gérées par les entreprises qui, qui ont des concessions.
C'est du racket.
Oui. Ah, c'est du racket.
Ah bah oui, c'est un monopole. Un monopole, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc moi je pense que les sociétés d'autoroute pourraient contribuer au pouvoir d'achat des ménages en rendant gratuit pendant 2 mois, juillet, août, les autoroutes. Ça leur ferait une baisse de 18% des bénéfices de l'année. Ce ne serait pas la mort.
Je pense que ça serait une belle contribution quand même depuis 2 mois, les autoroutes.
Ils se sont tellement gavés au détriment de la collectivité depuis des années. Je pense que ça serait un beau geste. Pourquoi je dis ça ?
Vous allez jusqu'à une nationalisation des autoroutes ou pas ?
Moi, je l'ai toujours proposé parce que ce serait une tellement bonne affaire pour le contribuable qu'après, l'État, au bout de 5-6 ans, ce serait remboursé. Et on pourrait, au bout de 5-6 ans, doser les péages, ceux qui sont déjà amortis, réduire, ou utiliser l'argent pour investir dans les transports en commun. On aurait une manne incroyable. Donc ça, ça a toujours été dans mon projet politique, mais de Debout la France. Mais en attendant, je pense que la reprise est difficile, notamment pour les petits entrepreneurs, les 3 millions d'indépendants. Tout ce qui pourrait être fait, que les plus riches, que ce soit les plus riches entreprises, que ce soit les gens les plus aisés, contribuent à la collectivité nationale, chacun un tout petit peu, pour alléger le fardeau, mieux redémarrer, partager, serait quand même bien. Parce que, vous savez, il y a 3 millions d'indépendants qui vivent un enfer, commerçants, artisans, petits entrepreneurs. La situation est vraiment... mais vraiment dramatique. Donc il faut les aider.
Pour les autoroutes, vous lancez une pétition, c'est
ça ? Oui, j'ai lancé une pétition
en ligne.
Et je pense que ce serait un beau geste. Oui. Voilà.
Venons-en à Gérald Darmanin, Nicolas Dupont-Aignan. Il reste au gouvernement, a priori. Il a été élu maire de sa ville. Il doit choisir ou il a raison de cumuler ?
Mais écoutez, moi j'aime la loi appliquée par tout le monde et notamment au sommet. Moi, samedi, j'ai abandonné mon mandat de maire... Olivier Clodon a été élu maire, je l'avais abandonné d'ailleurs en 2017, j'applique la loi, et donc je ne vois pas pourquoi des centaines de députés, sénateurs et autres appliquent la loi, et c'est très bien, et pourquoi un ministre s'exonère. Voilà, on est en monarchie, le président de la République lui dit « tu peux », mais au nom de quoi ? Mais je ne sais pas si ces gens réalisent que dans un pays, l'égalité, il y a une loi, on l'applique, surtout quand on est ministre. Enfin, je ne comprends pas. J'avoue, je ne comprends pas.
Donc vous demandez qu'ils choisissent, quoi.
Mais quelle image on donne en permanence aux Français quand au sommet, on ne s'applique pas les règles qu'on vote ? Moi, c'est tout, ça me paraît évident. Fin.
Que pensez-vous de la sortie de Camélia Jordana, la chanteuse, qui dit qu'elle ne se sent pas en sécurité face à un flic ?
C'est dégueulasse, voilà. Je suis désolé de ce terme, parce que quand on voit ce que subissent nos policiers, nos gendarmes, c'est immonde. Quand on voit... c'est vraiment... Moi, je suis écœuré de ça. Ce sont des gens qui font commerce de... Voilà, qui font commerce d'un esprit anti-flic, qui est scandaleux parce qu'on a une des polices les plus respectueuses au monde. On a des policiers, des gendarmes, des pompiers qui se font insulter, tabassés à longueur de journée par de la voyoucratie, et voilà, on leur tombe dessus, enfin je trouve ça indigne.
Alors on tombe beaucoup dessus en ce moment aussi sur le professeur Didier Raoult, qui divise un peu les Français. Vous l'avez soutenu au début, vous le soutenez encore malgré des études controversées là, récemment.
Mais je le soutiens parce que j'ai beaucoup étudié, je ne suis pas du tout un avocat de Raoult et je ne suis pas médecin. Simplement, je trouve ahurissant que dans notre pays, on ait bloqué la liberté de prescription médicale, tout fait pour déconsidérer un traitement qui, d'après énormément de témoignages, que ce soit en France ou à l'étranger, fonctionne. Et j'ai essayé de creuser, et j'ai quand même vu que ceux qui l'accablent le plus émargent à des laboratoires pharmaceutiques qui préféraient vendre leur produit qui vaut, 100 fois plus cher que le plaquenil ou l'azithromycine. Et donc, je ne suis pas complotiste du tout, mais je m'interroge. Je m'interroge quand je vois des lobbies, des groupes d'intérêt, à ce point, accabler le docteur Raoult. Je ne dis pas qu'il faut en faire un héros. Simplement, quand on voit à Marseille qu'il y a beaucoup moins de morts dans son hôpital, et surtout qu'il prend en amont les choses. Et quand je vois que son médicament est appliqué au Maroc, en Israël, en Russie, aux États-Unis, partout dans le monde, pas de manière systématique. Il ne s'agit pas de dire « bourrez-vous de Plaquenil et c'est génial ». Il s'agit simplement de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Or, les faits montrent qu'aujourd'hui, c'est le seul traitement qui a permis de bloquer la charge virale, notamment au début. Or, soyons précis.
Oui.
Les études, et j'entends de Philippe Touste-Blazy qui est remarquable dans
qui
ce dossier.
Qui met en cause les labos, hein, d'ailleurs, mais dans la publication
raison.
Des études.
Il a raison. Mmh. Parce que les études n'appliquent pas le protocole de Raoult dans les conditions que Raoult recommande. Les études prennent des gens qui sont déjà très atteints. Or, Raoult n'a jamais dit que son médicament était miracle. Il a toujours dit qu'il fallait tester tôt, ce que je n'ai cessé de dire, et qu'il fallait, dès qu'on teste, à ce moment-là, casser la charge virale pour éviter que ça atteigne les poumons. Une fois que la personne est à l'hôpital, son traitement ne fait pas plus d'effet. Mais il n'a jamais dit que c'était un miracle. Bon, donc, on le caricature. Parce que derrière, il y a la volonté de nous imposer à terme un vaccin, qui est un marché absolument colossal. Imaginez que le traitement du professeur Raoult évite aux gens d'être malades. C'est quand même gênant pour une certaine
année.
D'abord, ils ont voulu
vaccin,
nous mettre leur antiviraux, Remdesivir et tout, puis là, les études se sont plantées lamentablement. Vous vous souvenez de Discovery Étude miracle. Madame Lacombe, qui était à côté du Premier ministre, docteur Lacombe. Vous avez vu la fiche de conflit d'intérêt du docteur Lacombe? Allez la lire.
Oui. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, Nicolas Dupont-Aignan.
Oui, Jean-Marie Bigard a annoncé chez nous, dans le Loft Sud Radio, que Emmanuel Macron l'avait appelé suite à son coup de gueule sur la fermeture des bars et la non-réouverture pour l'instant. Est-ce que c'est le rôle, finalement, d'un chef de l'État d'aller parler de l'échéancier de reprise avec un humoriste?
Oh, mais il l'appelle qui il veut. Moi, je suis pas. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il appelle les gens. Il a été voir le professeur Raoult, mais il n'y a eu aucune conséquence. Pour qu'on dise dans les médias, oh, il est gentil Macron, il a appelé Monsieur Bigard, il a appelé Monsieur Raoult. Mais ce n'est pas le problème. On lui demande d'être chef de l'État. On lui demande de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et moi, il y a une seule chose que je vois et qui me met hors de moi. C'est qu'en Pologne, il y a 20 fois à 30 fois moins de morts par habitant. En Slovaquie, en Allemagne, 4 fois moins parce qu'il y a les lits de réanimation. Et moi, j'aimerais que le président de la République prenne les bonnes décisions pour le pays. Alors, il appelle qui il veut, c'est sa vie, on peut en parler, c'est sympa, bon voilà. Mais les Français, ils attendent maintenant des résultats, des actes, c'est tout. Voilà, donc, on est dans le showbiz. En fait, les Français ont élu, pas moi, un acteur de théâtre. Voilà, c'est un comédien. S'ils veulent être gouvernés par un comédien, on voit le résultat.
Merci Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et député de l'Essonne.
Merci
était l'invité
vous.
Ce matin en studio
en
de
studio.
Sud Radio.
Voilà.
Et dans un instant, on viendra sur les négociations qui débutent aujourd'hui dans le cadre du Ségur de la Santé avec Luc Faré, secrétaire national de l'UNSA Fonction Publique. Restez là, il est 7h58 déjà. Bon réveil.